Vous allez entendre le verset 131 de la sainte sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en ce dimanche 10 novembre 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. L'UNICEF met en garde contre l'aggravation de malnutrition dans la bande assiégée de Gaza. C'est le titre de notre commentaire pour aujourd'hui. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, Israël intensifie son nettoyage ethnique dans le nord de la bande de Gaza. La voie à suivre commence par le respect. L'Iran s'adresse aux États-Unis. Et puis une manifestation à Paris pour dénoncer les crimes israéliens à Gaza. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'attaque systématique d'Israël contre les journalistes dans le nord de Gaza est une tactique délibérée visant à empêcher les médias de documenter la campagne de nettoyage ethnique du régime israélien dans le territoire assiégé, affirme un groupe de presse basé aux États-Unis. Le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, a déclaré samedi qu'Israël avait adopté une politique de fin ou de départ pour forcer les Palestiniens à quitter le nord de Gaza. Mais selon le rapport, il ne reste quasiment plus de journalistes professionnels dans la région pour documenter ce que plusieurs institutions internationales ont décrit comme une campagne de nettoyage ethnique. Le régime israélien, selon le rapport, n'a pas permis aux médias internationaux un accès indépendant à Gaza au cours des 13 mois qui ont suivi le début de la guerre. En octobre, les frappes aériennes du régime israélien ont tué au moins 5 journalistes. Selon le directeur des programmes du CPJ, il a ajouté que les forces israéliennes ont également lancé une campagne de diffamation contre 6 journalistes de la chaîne d'information qatari Al Jazeera en poste dans le nord. Les forces israéliennes ont également empêché les journalistes d'accéder aux sites qui ont été bombardés ou attaqués, supprimant ainsi davantage la documentation des crimes présumés, a déclaré au CPJ. Osama Ali Hashi, un producteur de documentaires indépendants. Selon des informations en provenance du nord de Gaza, les militaires israéliens ont incendié des écoles et attaqué des hôpitaux et du personnel médical. Ils ont tué des dizaines de personnes et forcé des dizaines de milliers d'autres à fuir leur foyer. L'actualité, c'est toujours la bande de Gaza. Une frappe aérienne israélienne tue 32 civils, dont 13 enfants. Le régime israélien poursuit ses attaques meurtrières contre la population civile de la bande de Gaza, notamment la partie nord, soumise à un siège sans précédent depuis plus d'un mois. Une frappe menée dimanche avant l'aube par des forces israéliennes sur un complexe résidentiel situé dans le camp de Jabalia au nord de Gaza a fait 32 morts, dont 13 enfants. D'autre part, le nombre de journalistes tués dans les attaques israéliennes sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s'élève à 188, a déclaré samedi le bureau des médias du territoire assiégé. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, ONRWA, Philippe Lazzarini, a récemment déclaré que la famine est susceptible de se produire dans le gouvernorat du nord de Gaza, soulignant qu'Israël a utilisé la faim comme une arme, car les gens sont privés des produits de base, y compris de la nourriture, pour survivre. Il a indiqué que l'aide entrant dans la bande de Gaza n'est pas suffisante, puisqu'elle s'élève en moyenne à 30 camions par jour, ce qui ne représente qu'environ 6% des besoins quotidiens des Palestiniens. Lazzarini a appelé à des mesures urgentes, dont la volonté politique pour augmenter le flux d'aide humanitaire et commerciale vers Gaza, ainsi que des décisions politiques permettant l'entrée régulière et ininterrompue des convois dans le nord de Gaza. Il a également demandé une volonté politique pour traiter la crise de la faim et l'éradiquer. Le bilan des victimes de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s'élève à 43 552 morts et 102 765 blessés. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a dénoncé un scénario inventé, je cite, de tentative d'assassinat contre le président élu américain Donald Trump, affirmant que la voie à suivre commence par le respect. Abbas Araghchi a fait ses remarques dans un message publié sur X samedi 9 novembre, un jour après que le ministère américain de la Justice a prétendu que l'Iran avait soutenu un complot visant à tuer Trump quelques semaines avant les élections du 5 novembre. Le peuple américain a fait son choix et l'Iran respecte son droit d'élire le président de son choix. La voie à suivre est également un choix. Cela commence par le respect, a déclaré M. Araghchi. Faisant référence à l'assassinat de l'ancien chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Téhéran, par Israël, à peine quelques heures après sa participation aux cérémonies d'investiture du nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian, M. Araghchi a noté que l'accusation contre l'Iran d'avoir comploté pour assassiner Trump juste avant son élection a été formulée pour servir le même objectif. Vous souvenez-vous de l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh à Téhéran, juste après l'investiture de notre président ? Tout le monde sait qui l'a fait et pourquoi, a-t-il indiqué. Aujourd'hui, avec une nouvelle élection, un nouveau scénario a été inventé avec le même objectif, a-t-il prévenu. Comme il n'existe pas de tueur en réalité, on fait appel à des scénaristes pour produire une cérémonie de troisième ordre qui peut croire qu'un assassin présumé se trouve en Iran et parle en ligne au FBI, a-t-il martelé. Plus loin dans ses propos, le chef de la diplomatie iranienne a également noté que l'Iran n'avait aucune intention d'acquérir des armes nucléaires, ajoutant qu'il s'agissait d'une politique basée sur les principes islamiques. Il a poursuivi que les deux parties devaient bâtir la confiance, soulignant que ce n'est pas une voie à sens unique. Vendredi, le ministère américain de la Justice a dévoilé des accusations criminelles qui incluent des détails sur un complot qui, selon lui, aurait été soutenu par l'Iran pour tuer Trump avant l'élection de mardi. Pour sa part, l'Iran a rejeté ces allégations comme étant complètement sans fondement et injustifiées. L'Iran condamne l'attentat à la bombe près de la gare de Quetta dans le sud-ouest du Pakistan. L'Iran a fermement condamné l'attentat terroriste à la bombe perpétré dans une gare de la ville de Quetta dans le sud-ouest du Pakistan, réitérant la volonté de Téhéran de coopérer bilatéralement pour lutter contre le terrorisme. Au moins 26 personnes ont été tuées et plus de 60 autres blessées dans l'attentat survenu ce samedi 9 novembre, alors que des passagers attendaient sur un quai de la gare principale de Quetta, capitale de la province pakistanaise du Baloutchistan. L'attaque a été revendiquée par l'armée de libération du Baloutchistan, l'un des principaux groupes séparatistes de la région. Ce groupe revendique régulièrement des attaques meurtrières contre les forces de sécurité du pays ou contre des Pakistanais d'autres provinces, notamment du Punjab. Manifestation à Paris en soutien à la Palestine. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Paris ce samedi après-midi, partant de la place de la République pour dénoncer la complicité des autorités françaises dans le génocide, je cite, commis contre le peuple palestinien. Les manifestants rassemblés à l'appel de l'association CAP JPO Euro-Palestine ont brandi des drapeaux palestiniens. Ils ont également scandé des slogans tels que « Stop au génocide en Palestine » et « Pas de collaboration avec l'apartheid » en réponse aux crimes commis par le régime israélien dans la bande de Gaza. Les organisateurs ont affirmé que cette mobilisation vise à alerter sur les liens et partenariats qu'ils considèrent comme complices entre la France et Israël, particulièrement en pleine crise humanitaire à Gaza. Les manifestants ont dénoncé un soutien indirect qu'ils estiment être en contradiction avec les valeurs de solidarité et de droits humains alors que la France prétend les défendre. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. L'UNICEF met en garde contre l'aggravation de la malnutrition dont souffrent les enfants à Gaza. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a mis en garde contre une famine imminente dans la bande de Gaza et a appelé à l'acheminement de l'aide humanitaire dans cette zone. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti dans un post sur X que si l'aide humanitaire n'arrive pas dans la bande de Gaza dans les prochains jours, le nombre de cette bande sera au bord d'une famine imminente. Le chef de l'OMS a alerté sur les conditions qui prévalent dans le nord de Gaza et a demandé un accès immédiat et sûr à l'aide humanitaire, principalement à la nourriture et aux médicaments contre la malnutrition, dans les prochains jours. Partageant le rapport du comité d'examen de la famine, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a appelé à des mesures mondiales pour faire face à la famine à Gaza. Selon le rapport du comité d'examen de la famine, l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza pendant l'année dernière a atteint son plus bas niveau. Les statistiques montrent que le nombre de camions transportant de l'aide humanitaire destinée à Gaza a atteint 58 camions par jour, le plus bas depuis octobre 2023. En outre, le prix élevé des produits de base, notamment du combustible pour cuisiner, est un autre problème auquel est confrontée la population de Gaza. Le rapport du comité d'examen de la famine indique que les pires scénarios se produisent dans certaines parties de Gaza. Ce rapport affirme que la famine et la surmortalité due à la malnutrition et aux maladies s'aggravent à Gaza. Le comité d'examen de la famine a mis en garde contre le risque d'une famine dans la bande de Gaza et précisé que certaines parties de cette bande ont dépassé le seuil de la famine. Ces dernières semaines, les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé ont mis en garde à plusieurs reprises contre la diminution de l'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza et ont appelé Israël à mettre fin au blocage des camions transportant des denrées alimentaires et des médicaments. Ces organisations ont également précisé que l'acheminement de l'aide humanitaire a atteint son plus bas niveau. La famine et la détérioration de la situation à Gaza font partie des préoccupations les plus importantes des organisations humanitaires, alors que le régime sioniste continue d'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Pour certains experts, Israël cherche à contraindre le Hamas d'accepter ces conditions et la population de Gaza de quitter leur foyer en limitant l'acheminement de l'aide humanitaire. Le régime sioniste a tué jusqu'à présent plus de 43 000 personnes à Gaza et blessé et déplacé des milliers d'autres.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors après la victoire de Donald Trump aux élections américaines, le sommet des dirigeants de la communauté politique de l'Union européenne s'est réuni à Budapest en Hongrie pour parler justement des répercussions de ces élections. Ils ont surtout parlé et demandé aux États-Unis de soutenir l'Ukraine afin d'éviter une guerre commerciale qui est déjà en cours, afin de l'empêcher donc de continuer. Mais l'avertissement réel de ce sommet est bien sûr donc à l'époque où Donald Trump était président des États-Unis, les relations entre l'Union européenne et les États-Unis étaient bien très affaiblies. Bien sûr, ils craignent donc l'avenir donc de l'Union européenne avec ces élections et bien sûr le soutien donc des États-Unis dans la guerre génocidaire que mène le régime israélien à l'encontre de la Palestine était également le sujet évoqué par les dirigeants français et allemands, particulièrement au cours de ce sommet. Nous allons donc développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a souligné par la voix de son porte-parole que l'Iran jugerait le nouveau gouvernement américain sur la base de ses approches politiques. Après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Barahi, a réaffirmé ce jeudi que ce qui importe à l'Iran, c'est l'action du gouvernement des États-Unis et pas leur président. Nous avons eu des expériences très amères avec les politiques et les approches des gouvernements américains dans le passé, a indiqué Barahi, rappelant que les élections pouvaient présenter l'opportunité de revoir et réviser les mauvaises approches du passé. Les États-Unis, sous la présidence de Trump, se sont retirés unilatéralement en 2018 de l'accord nucléaire conclu en 2015 avec l'Iran et ont imposé une série de sanctions strictes contre le pays. Barahi a réitéré la position antérieure de l'Iran selon laquelle les résultats des élections américaines n'ont aucune importance pour la République islamique.
Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat de Téhéran M. Bernard Cornu, analyste politique qui est avec nous depuis la France. M. Cornu, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand bonjour à Xavier Dupré, économiste et également analyste politique qui est avec nous depuis la Belgique. Monsieur Dupré, bonjour.
Bonjour et à vous et à tous vos téléspectateurs.
Merci d'avoir accordé votre temps à l'émission Le Débat, un débat qui parle bien sûr des élections présidentielles aux États-Unis et les répercussions de ces dernières sur l'Union européenne bien sûr, mais également sur l'Iran. Donc, qui a une très très mauvaise expérience avec les relations américaines, car il ne fait aucunement confiance aux États-Unis, que ce soit n'importe quel président. Ma première question va s'adresser à M. Bernard Cornu, qui est avec nous depuis la France. Est-ce que vous donnez raison à la République islamique d'Iran de ne pas croire dans la bonne volonté des États-Unis quant à ses relations avec l'Iran ?
Oui, d'ailleurs, je pourrais citer un poète résistant, René Char, « Dans mon pays, on ne croit pas à la bonne volonté du vainqueur. » Et voilà, le président Trump, quand il a été président pendant son premier mandat, il a fait des choses contre tous les accords internationaux. Il s'est fait retirer du climat. Il a aussi... réclamation que sous son règne il n'y a pas eu de guerre, à part effectivement quelques bombardements ici ou là. Il est imprévisible et il est très difficile de savoir de 2015 avec France sur le nucléaire civil actuel, au-delà des procs, la guerre à Gaza et au Liban, la guerre en Ukraine. Et donc tout cela coûte cher aux États-Unis et lui qui veut maintenir le pouvoir d'achat des Américains, devoir réduire les dépenses. Or, en fait, dans son programme, des experts ont calculé que son programme amenait à augmenter la dette américaine de 7 500 milliards de dollars. Elle est déjà à plus de 30 000 dollars, milliards de dollars. Donc tout ça, c'est très incohérent. De ce qu'il a été dit pendant la campagne, il est difficile de
prévoir ce qui va se passer. Il faut attendre la formation du gouvernement américain, la nomination des proches à la CIA, au Pentagone, enfin, secrétaire à la Défense, secrétariat aux affaires étrangères. Tout ceci est important pour définir la politique, parce que on voit que M. Trump a beaucoup de dynamisme, mais en fait, il connaît très peu l'histoire, très peu la géographie, et il est donc sous influence de ses proches conseillers.
Oui, merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Xavier Dupré, qui est avec nous depuis la Belgique. M. Dupré, quelle est votre analyse? C'est vrai qu'il est connu pour être imprévisible. Est-ce que vous le croyez également?
C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai plutôt l'impression que sur le dossier iranien, il va être extrêmement prévisible. Je veux dire, la proximité aujourd'hui du gouvernement américain avec le régime israélien est extraordinairement proche. Je veux dire, j'ai quand même entendu un président qui, ici, à peine élu, Donald Trump, proposer de déporter les manifestants qui, en fait, signifiaient dans l'espace public leur solidarité à l'égard de la cause palestinienne. Bon. Dans ces conditions, bah oui, on voit très clairement que l'axe entre Tel Aviv et Washington va être extrêmement solide, il va être très fort, et j'en veux pour preuve un élément qu'on a peut-être un tout petit peu oublié. Lorsque Donald Trump a failli être victime d'un attentat, ce qui a sans doute en plus fait, comment dire, augmenter sa popularité, fait grimper sa cote de popularité en flèche, Benjamin Netanyahou l'a aussitôt félicité d'avoir échappé à cet attentat et s'en est réjoui. Donc aujourd'hui, la ligne Netanyahou, la ligne ultra dure, est complètement assise en Israël, en témoigne d'ailleurs des remaniements importants au sein de son cabinet, avec le départ de Gallant du ministère de la Défense. Donc, aujourd'hui, Donald Trump va appuyer dans la région du Proche-Moyen-Orient la ligne la plus anti-iranienne qui soit à Tel Aviv. Donc, dans ces conditions, je n'imagine pas qu'on puisse signer un chèque en blanc à Donald Trump, loin de là, évidemment.
Monsieur Bernard Cronne, quelle est votre réaction? Est-ce que vous pensez ainsi?
Oui, tout à fait. Parmi les conseillers, j'ai bien évidemment pensé à l'influence israélienne. Il faut se rappeler que du temps des Bush, dans la vingtaine de républicains influents, qu'on appelle les néoconservateurs, les néocons, à peu près la moitié avait double nationalité, avait aussi la nationalité israélienne. Et tous ces gens-là étaient très proches du pouvoir, participaient à la rédaction de plans pour l'avenir, le fameux plan pour un nouveau siècle américain, et déterminaient finalement la politique américaine du Parti républicain. Et donc, tous ces conseillers, on va les voir revenir. Certains seront dans l'ombre, certains auront des postes, mais c'est vrai que cette influence d'Israël dans la politique américaine est déterminante. Néanmoins, pour nuancer cela, on peut dire que dans un de ses discours, pendant la campagne électorale, M. Trump a dit qu'il ne fallait pas trop chercher à faire du changement de régime en Iran et qu'il souhaitait à l'Iran que l'Iran succède, ait du succès, sans dire dans quel domaine. Donc il y a aussi une certaine réticence à s'engager, engager l'armée américaine dans des conflits. Je pense que, comme beaucoup de gens auront de l'influence, on ne pourra difficilement savoir ce qui va prévaloir dans son attitude vis-à-vis de l'Iran, mais c'est vrai que l'Europe peut aider aussi à ce que les États-Unis aient une politique, disons, calme, rationnelle, et se range à nouveau dans le multilatéralisme, mais cela nécessitera effectivement beaucoup d'efforts concertés de l'Union européenne. Si l'Union européenne est divisée, elle n'arrivera pas à influencer la politique américaine ou la contrer.
D'où justement, M. Xavier Dupré, le sommet des dirigeants de la communauté politique de l'Union européenne qui s'est donc déroulé à Budapest en Hongrie, qui parlait particulièrement de cesser donc leur dépendance à l'égard des États-Unis et à arriver à une autonomie politique et stratégique à l'égard des différents dossiers dans le monde, dont l'Iran, l'Ukraine ainsi que d'autres. Que pensez-vous, Geoffrey ?
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, il est grand temps qu'on s'en rende compte en Europe, puisque je me souviens très très bien du dossier du nucléaire iranien, c'est-à-dire que l'Iran avait parfaitement rempli sa partie du contrat, et de manière tout à fait unilatérale, les États-Unis se sont retirés des accords. Et à l'époque, l'Union européenne n'a pas manifesté, il faut quand même être très clair, les dirigeants européens ne se sont pas signalés, caractérisés par un excès de courage. Alors, il est grand temps pour nous, effectivement, de nous émanciper. Enfin, si vous voulez, si on se dirige vers un monde multipolaire et qu'on le salue, eh bien, dans ce monde multipolaire, l'Europe est un pôle signifiant et qui a vocation à s'émanciper des États-Unis pour parler d'une seule voix, essayer d'adopter une position commune. C'est très compliqué entre de vieux États-nations, adopter une position commune. Ça peut relancer effectivement une coopération à moyen terme avec l'Iran. Pour le surplus, je constate, et ce sera en tout cas le dossier iranien, sera une preuve, une manifestation potentielle de ce que l'Europe veut s'émanciper ou pas de la tutelle américaine, parce que je ne vois pas les États-Unis se lancer dans encourager une guerre contre l'Iran, c'est très clair. Quelques frappes, des choses comme ça, mais une vraie guerre avec changement de régime, non, c'est pas possible. Ils en sont très conscients. Par contre, les sanctions vont continuer à frapper durement la population iranienne. Et là, je dois bien dire une chose. Si nous voulons nous émanciper en Europe, donnons la preuve de cette volonté d'émancipation. On peut en donner la preuve. Il faudra qu'on décide en Europe que il n'y a pas de sanctions. Les sanctions que les États-Unis appliquent à l'Iran, eh bien, c'est le fait des États-Unis. Mais nous, Européens, n'avons pas nécessairement vocation à suivre les États-Unis dans cette politique unilatérale de sanctions, qui, elle, va continuer et sans doute s'amplifier.
Monsieur Xavier Dupré, parlons de la France qui a peut-être changé de politique à l'égard des États-Unis. Jusqu'ici, Emmanuel Macron a été la marionnette donc, des États-Unis dans différents dossiers. Et en disant que maintenant, il est temps qu'on arrive à une autonomie stratégique et politique de la France et de l'Union européenne, est-ce que cela veut dire que peut-être qu'ils ont changé de cap à l'égard des États-Unis après les élections de Donald Trump?
Mais c'est-à-dire que par rapport à Emmanuel Macron, j'ai un sentiment très mitigé. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une prise de conscience des élites européennes de ce que aujourd'hui les États-Unis ne seront plus l'allié qu'ils furent autrefois. Ça, c'est très net. En tout cas, l'allié qu'ils ont été encore sous la présidence de Joe Biden. Cependant, je dois quand même attirer votre attention sur le fait que nos élites politiques en Europe sont néolibérales. Ce néolibéralisme n'est pas tombé du ciel d'un point de vue géopolitique. Il correspond à cette phase d'américanisation du monde qui a succédé à la chute du mur de Berlin. Remettre en cause quelque part le parapluie américain, la protection du grand frère américain, c'est aussi remettre en cause une certaine forme d'hégémonie idéologique, du néolibéralisme. Et ça, je ne suis pas certain que ce soit dans les intérêts de nos élites politiques qui sont très alignées sur les intérêts des classes supérieures, des multinationales et en fait finalement des 5% de la population européenne les plus riches. Et là, je crains malheureusement qu'en se détachant des États-Unis, il y ait un aggiornamiento de leur agenda économique, socio-économique qui soit un petit peu la conséquence de cette désaméricanisation de l'Europe. Et ça, je ne suis pas certain qu'ils sont prêts que nos élites soient prêtes à franchir ce pas. Et donc, on risque, en tout cas pendant un certain temps, d'aller de déclarations qui seraient en fait de pures déclarations d'intention, en volonté d'émancipation, mais qui seraient relativement peu suivies d'effets concrets et cohérents. Je pense qu'il y a, vous savez, une hégémonie politique, c'est aussi une base matérielle. Je sais que c'est une analyse un peu matérialiste, que je professe, mais derrière cette hégémonie politique des États-Unis en Europe, se sont agencés, se sont articulés d'intérêts économiques. Et aujourd'hui, revisiter cette alliance, cet alignement, c'est aussi revisiter les intérêts de classe qui supportaient cette alliance. Et ça peut être très douloureux pour nos élites. Et c'est vrai que je n'imagine pas Emmanuel Macron enchantre d'une alternative au néolibéralisme et à la financiarisation de l'économie française. Donc tout ceci me semble quand même relever davantage de la posture que de la véritable position politique.
Monsieur Bernard Cornu, faites-nous part, s'il vous plaît, des propos à l'égard, des propos adressés par Monsieur Xavier Dupré, je vous prie.
Oui, vous avez rappelé les propos du président Macron lors de ce sommet politique, donc impliquant l'Ukraine et l'Angleterre, le Royaume-Uni, donc au-delà de l'Union européenne elle-même. Cette peur d'une évolution de la politique américaine peut quand même pousser les Européens à trouver une position commune plus ferme, plus orientée vers l'avenir, vers l'autonomie stratégique, vers l'industrie de défense. Donc c'est un peu une opportunité qu'ils doivent être obligés de réagir. C'est vrai que nous avons une majorité, hélas, de gouvernements libéraux en Europe et aussi au Parlement européen, mais les dernières élections en France ont montré que la gauche, si elle est unie, pouvait avoir de l'influence. Il y a une résistance, effectivement, parce qu'il y a l'inertie du Sénat, l'inertie des politiques, le rôle des médias dans les évolutions politiques. Donc, on verra comment ça se passe. Il y a des crises un peu partout au niveau des politiques internes de chaque pays, en Allemagne, en France. Donc, tout ceci va bouger. Peut-être que cette perspective d'une Amérique gouvernée par M. Trump et tout son gouvernement va forcer à la fois les peuples et les États d'Europe à réfléchir à mieux construire leur autonomie. Donc, il faut espérer ceci. Le président Macron avait dit il y a quelques années que l'OTAN était en mort cérébrale, qu'il n'y avait pas d'idée, mais il faudra aller beaucoup plus loin et reconnaître que la progression de l'OTAN à l'inverse des promesses faites à la Russie après la chute du mur de Berlin il y a 35 ans, ceci était une cause de l'énervement de M. Poutine et du choix qu'il a fait de faire la guerre à l'Ukraine après sa réforme constitutionnelle. Donc les États ont de la peine à avouer leur responsabilité dans cette guerre, les États européens, parce qu'ils ont laissé faire l'OTAN. Donc la question maintenant est de dire, est-ce que l'Europe va s'autonomiser vis-à-vis de l'OTAN, prendre ses décisions elle-même, construire son industrie de défense? Cela crée des emplois, cela a des intérêts, et les politiques de gauche peuvent à nouveau émerger en Europe à partir de l'Espagne, de la France après l'échec du gouvernement actuel, et peut-être ailleurs en Allemagne aussi après de nouvelles élections.
Absolument. Monsieur Xavier Dupré, bon, la conscience des dirigeants européens commence à se éveiller donc à l'égard de cette guerre génocidaire, des relations avec l'Iran ou d'autres, mais celle des populations, elle est éveillée depuis très longtemps à travers des manifestations et d'autres, et surtout des manifestations aux États-Unis. Est-ce que vous croyez que le peuple américain et le peuple européen auront quelque chose à dire et d'avoir une influence sur les dirigeants, et particulièrement sur Donald Trump, de peut-être changer la chose et avoir moins de soutien à l'égard du régime israélien dans ses crimes, par exemple?
C'est-à-dire qu'en fait, ça rejoint un petit peu la question que vous m'aviez posée tout à l'heure. Si vous voulez, une évolution de ce type-là, vraiment, qui est un décrochage par rapport aux États-Unis, une révision de l'agenda, en tout cas de la proximité avec Israël, elle va dépendre effectivement d'un changement d'élite politique en Europe. Donc, est-ce qu'il y aura dans les mois, dans les années qui viennent, des alternances de gauche? C'est éventuellement possible. Dans certains États européens, tout de même, je note qu'en Allemagne, les élites politiques restent très fortement attachées, pour toute une série de raisons historiques, à leurs relations tout à fait particulières et privilégiées avec Israël. Donc ça n'évoluera peut-être pas nécessairement aussi vite dans certains pays de l'Union européenne que dans d'autres. Mais il est vrai que les populations, globalement, on observe ceci, c'est que partout où il y a des élections dans le monde aujourd'hui, globalement, être au pouvoir, c'est déjà en soi un problème. Voilà. Donc, il n'y a jamais eu autant d'opposants, d'oppositions qui ont gagné des élections depuis, je crois que c'est depuis le début des années 60. Donc ça signifie qu'il y a un ras-le-bol des populations qui sont aujourd'hui en Europe épuisées par le coût de la vie, la précarité de l'emploi, l'énergie qui reste chère, par toute une série aussi d'inégalités qui se sont profondément creusées dans l'après-Covid. Donc il y aura des manifestations, ces manifestations, des mobilisations populaires en tout cas, elles portent la marque idéologique de la gauche, c'est évident. Ça peut amener dans certains pays, plus que dans d'autres, en Europe, je pense effectivement à la France, l'Espagne, très certainement, ça peut amener à ce que la relation avec à la fois Washington, mais aussi le régime israélien, soit revisitée en profondeur. Il y a d'autres pays dans lesquels je crains malheureusement que le statu quo puisse durer encore un certain temps. Parce que ce qui se dit... Par exemple, prenez l'Allemagne. En Allemagne, aujourd'hui, on nous annonce, suite à l'ensemble des facteurs de dégradation des conditions de vie que je vous ai décrits, on nous annonce que l'AFD, ce parti de droite extrême, pourrait effectivement être premier aux élections. Mais la réaction des élites politiques allemandes aujourd'hui, ce serait quasiment de proposer une grande tripartite de l'extrême-centre entre CDU, CSU, ce qui restera du SPD et ce qui restera des écologistes. Et donc là, à ce moment-là, on ne va vraiment pas changer la donne. Dans un pays comme l'Italie aujourd'hui, où l'islamophobie est quasiment devenue une idéologie d'État, je ne vois pas du tout, je vois difficilement Rome rompre avec un atlantisme qui d'ailleurs est assez caractéristique des élites politiques italiennes, en ce compris quand elles se définissent comme post-fascistes. Et je ne vois pas non plus une évolution positive, en tout cas, je ne vois pas un relâchement des liens avec Israël, parce que c'est devenu aussi un apanage aujourd'hui. La droite est pro-israélienne en Europe, la gauche est pro-palestinienne. Il y a vraiment un clivage qui est là très net et très fort. Mais certains pays pourraient évoluer. Quant aux populations aux États-Unis, pour l'instant, ce que je vois de ces manifestations, c'est qu'elles ont essentiellement de l'écho dans les élites politiques, les élites intellectuelles, les campus universitaires. C'est une influence de long terme. Ça pourra changer culturellement les choses, mais sur le long terme. Parce que dans l'Amérique profonde d'aujourd'hui, quand je vois les résultats de Donald Trump dans le Midwest, et même dans certains États ouvriers qui étaient pourtant acquis aux démocrates, bien je me dis qu'il y a quand même un courant idéologique fort qui pousse vers l'alliance avec Israël, donc perçu et décrit comme le grand allié naturel, et souvent on invoque la seule démocratie, c'est un discours de pouvoir, la seule démocratie dans la région. Donc il y aura des changements en Europe, mais il ne faut pas imaginer que ça se fera à l'échelle de toute l'Union européenne. Ce sont quelques pays dans lesquels on peut repérer et espérer d'éventuelles poussées de gauche à très court terme.
Et vous évoquez...
Mais dans d'autres, par contre, la donne est bloquée, c'est clair.
Absolument. Vous avez évoqué la France et l'Espagne. Monsieur Bernard Cohn, est-ce que vous voulez bien conclure le débat d'aujourd'hui?
Oui, l'affaire de la guerre à Gaza, des massacres massifs, des destructions massives, et maintenant son extension au Liban, où il y a aussi plus de 3000 morts, des massacres, des enlèvements... Ceci touche quand même l'ensemble de la population. C'est vrai qu'en Europe, seule la gauche et les écologistes sont sensibles, réagissent, vont manifester. Mais je crois que le caractère extrême de cette phase de guerrière, de cette phase de massacre, qui a été déjà qualifiée de génocide plausible, ce qui rend aussi nos États complices, je pense que cela va toucher aussi les consciences et j'espère qu'il y aura une réaction un peu plus forte des opinions publiques, un peu plus, disons, large, vraiment public qui s'exprimera et qui dira qu'il faudra maintenant que l'ONU intervienne, qu'il y ait des solutions justes et fermes pour amener la paix, au moins une oriente de façon durable et éviter de nouvelles guerres.
Monsieur Bernard Cornu, analyste politique depuis la France, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci également à Xavier Dupré qui est avec nous depuis Bruxelles et d'avoir apporté des précisions à cette émission. Merci beaucoup, M. Xavier Dupré. Alors bien, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Afrique Économie.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et bonsoir et merci de nous rejoindre. Pour cette édition de l'Afrique Économie, nous allons réviser et passer en revue l'actualité africaine la plus importante dans le domaine économique. Restez avec nous. L'Éthiopie émettra 7,4 milliards de dollars d'obligations pour régler des dettes d'entreprises publiques. Les fonds serviront notamment à rembourser les prêts accordés par la première banque du pays à de nombreuses sociétés d'État, dont Ethiopia Electric Power, Ethiopian Sugar Corp et Ethiopia Railway Corp. L'Éthiopie prévoit d'émettre des obligations domestiques d'une valeur de 900 milliards de birres pour régler les dettes de plusieurs entreprises publiques qui ont alourdi le bilan de la Commercial Bank of Ethiopia, la première banque du pays. Les fonds seront levés par le biais d'obligations souveraines d'une maturité de 10 ans selon un décret soumis par le gouvernement au Parlement le mardi 5 novembre. Environ 846 milliards de birres seront utilisés pour rembourser les prêts accordés par la Commercial Bank of Ethiopia à des sociétés d'État comme Ethiopia Electric Power, Ethiopian Sugar Corp, Ethio Engineering Group et Ethiopia Railway Corp. Le reliquat servira à augmenter le capital du mastodonte bancaire public. Les taux d'intérêt de ces obligations seront déterminés par le ministère des Finances, la Banque centrale et la Commercial Bank of Ethiopia selon le décret. Le Ghana veut abriter la première usine de batteries au lithium en Afrique subsaharienne. L'Afrique héberge 30% des réserves mondiales de métaux critiques, mais participe peu à leur transformation riche en cuivre, cobalt ou lithium. La RDC, la Zambie ou encore le Zimbabwe affichent des ambitions dans la production locale de batteries électriques, avec des plans plus ou moins avancés. Le fonds souverain minier du Ghana, minéral propriétaire du plus grand projet de graphite du pays, selon un communiqué du mardi 5 novembre, le financement serait du MIF, le premier actionnaire de Cassel et s'inscrit dans la stratégie d'Accra de produire localement des batteries électriques. Les fonds serviront en priorité à poursuivre le développement de Kambalé jusqu'au stade de l'étude de préfaisabilité. Le projet héberge 1,9 million de tonnes de graphite, selon une estimation publiée en octobre 2023. Les termes du protocole d'accord avec Cassel prévoient que le MIF aura le droit préférentiel d'acheter jusqu'à un maximum de 50% de la production de graphite. Alors que le gouvernement a déjà un accord avec Atlantic Lithium pour un éventuel projet d'usine de transformation du concentré de lithium bientôt produit sur la première mine du pays, ce nouveau déploiement traduit la volonté des autorités du fer de Ghana, un producteur de batteries électriques. Considéré comme le deuxième aéroport congolais après celui de Djili, à Kinshasa, la plateforme de Kisangani Banguka était en rénovation. Sa relance coïncide avec celle de Congo Airways, qui en sera l'un des principaux apporteurs de trafic. L'aéroport international de Kisangani Banguka en République démocratique du Congo traitera des vols de Congo Airways dès la reprise des activités de la compagnie le dimanche 10 novembre. Les liaisons seront opérées en aller-retour vers la capitale Kinshasa, conformément au programme dévoilé par le transporteur. Le pavillon national participe ainsi à la reprise du trafic sur cette plateforme dont les installations rénovées ont été inaugurées le samedi 26 octobre par le président Félix Tshisekedi. Plusieurs infrastructures et équipements ont été inflités aux standards internationaux dont l'aérogare qui dispose désormais, selon Jean-Pierre Bemba, le ministre des Transports, de 6 guichets pour une capacité d'accueil de 300 passagers en heure de pointe. Le tarmac peut maintenant abriter une dizaine d'avions gros et moyens porteurs et la piste a été élargie à 3500 fois 60 mètres avec pour vocation d'attirer plus de trafic international. En Tunisie, le gouvernement finalise la connexion de 3300 écoles à la fibre. Le gouvernement tunisien continue de promouvoir la transformation numérique qu'il a érigée en pilier central du développement socio-économique. Cette démarche englobe tous les secteurs de l'économie, y compris l'éducation. Le programme du gouvernement tunisien visant à connecter 3300 écoles à l'Internet à haut débit via la fibre optique qui devrait être achevée d'ici la fin novembre, c'est ce qu'a révélé Sofiane Emissi, ministre des technologies de la communication, le jeudi 7 novembre à la 10e édition du Forum international des directeurs des systèmes d'information à Hammamet Sud. Lancé en octobre 2023, le programme est financé par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque africaine de développement. Il s'inscrit dans l'initiative gouvernementale Une école moderne au-dessus de chaque colline qui vise à numériser l'ensemble du système éducatif en Tunisie. Dans le plan national stratégique Tunisie Digitale 2020, le gouvernement s'est donné pour objectif de renforcer la culture numérique pour la généralisation de l'usage des TIC dans les cursus éducatifs et par la numérisation des contenus. Les autorités tunisiennes estiment que la numérisation du système éducatif contribuera à améliorer la qualité de l'éducation. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'apprentissage numérique a le potentiel d'élargir l'accès à l'éducation, d'améliorer les résultats d'apprentissage et de doter les apprenants des connaissances et des compétences dont ils ont besoin pour relever les défis du XXIe siècle. L'institution ajoute que l'innovation numérique peut faciliter la mise en place des systèmes d'apprentissage inclusifs et résilients. La Banque africaine de l'énergie lancera ses activités fin janvier 2025. Pour la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques de l'Afrique d'ici 2030, l'AIE estime à plus de 200 milliards de dollars par an les investissements nécessaires afin de répondre aux besoins énergétiques croissants. La Banque africaine de l'énergie prévoit de démarrer ses activités le 28 janvier 2025, selon un communiqué du gouvernement nigérian, publié à l'issue de la 19e réunion du conseil d'administration de l'Organisation des producteurs de pétrole africain, qui s'est tenue le mercredi 30 octobre à Yaoundé au Cameroun. Fondée en juin par l'APO en partenariat avec Afriximbank, l'AEB est une institution de développement dotée d'un capital initial de 5 milliards de dollars. Elle a pour mission de soutenir le financement des projets pétroliers, gaziers et potentiellement d'énergie renouvelable en Afrique et de combler le déficit énergétique du continent en exploitant ses vastes réserves de pétrole et de gaz naturel. D'après le ministre nigérian du pétrole Nicolas Agboela, la finalisation des travaux du siège de l'AEB à Abuja est en cours.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9,